Merci beaucoup. Donc, Dominique a commencé par nous présenter de manière très générale les collectionneurs et posant cette question, qui sont les collectionneurs ? Donc, nous en avons trois aujourd'hui. Donc, on va pouvoir les rencontrer en chair et en os et surtout les écouter parler. Et la première partie de ce colloque va concerner la notion de goût et d'intuition. Et la notion de goût, elle est évidemment toujours extrêmement complexe à déterminer, surtout en relation avec l'idée de l'art. Et bien souvent, les artistes eux-mêmes sont contre la notion de goût. Et donc, je vais citer d'abord deux artistes comme Gustav Klimt, qui dit « Le goût, c'est bon pour les amateurs de vin et les cuisiniers. L'art n'a rien à voir avec le goût. » Et Marcel Duchamp, que vous aimez particulièrement, Marcel Duchamp qui dit « Le grand ennemi de l'art, c'est le bon goût ». Donc, avec ces notions autour du goût, est-ce qu'on pourra parler de cette question qui vous anime, vous, dans vos collections ? Est-ce que le goût est quelque chose qui est important pour vous ? Ou plutôt la notion d'intuition ? Donc, l'intuition qui est vraiment l'idée d'un dispositif d'esprit, d'une disposition particulière et peut-être l'idée d'une action qui se fait dans l'immédiat. Et donc, une des questions sur laquelle on va pouvoir revenir dans cette table ronde, c'est est-ce que l'intuition vous permet d'acheter les œuvres et de raisonner par la suite, ou est-ce que vous commencez par raisonner avant de vous laisser porter par votre goût ? Voilà. Donc, pour commencer, je vais vous présenter donc, Bruno Decharme. Vous nous direz quel est le style, quel est l'esprit de votre collection tout à l'heure. Et même si on n'aborde pas forcément le goût, en tout cas, il y a un esprit particulier dans chacune des trois collections. Alain Le Provost, qui est aussi collectionneur depuis... Enfin, tous les trois, vous êtes collectionneurs depuis un certain nombre d'années. Donc, ce ne sont pas des tout jeunes collectionneurs, mais des collectionneurs très, très aguerris, non pas par l'âge, mais par la durée du nombre d'actions dans ce domaine. Donc, Alain Le Provost, une partie de votre collection fait partie de cette fameuse exposition, donc « Collectionner le désir inachevé ». Donc, vous aurez l'occasion de nous en parler également. Et puis, ça n'est pas Isabelle Lemaître, mais Jean-Conrad Lemaître, qui n'est autre que son mari. Et malheureusement, Isabelle est clouée au lit avec une mauvaise grippe. Et donc, Jean-Conrad, qui est collectionneur et mari d'Isabelle, et donc qui collectionne tous les deux ensemble, donc, a accepté de venir prendre sa place. Alors, juste une chose, c'est que je ne sais pas comment on va passer... Tu m'as pas mis le... Je ne sais pas comment on intervient ici. Ah oui, c'est la souris, je ne la voyais pas. Quitter.
Oui, quitter.
Voilà, je pense qu'on va quitter. Et alors, est-ce que... Voilà, c'est celui-ci. Non, pardon, c'est pas celui-là. C'est la table ronde 1 qu'il nous faudrait.
Tiens, je m'en occupe, t'inquiète. Ouais.
Et puis on a aussi un site internet qu'on voudrait consulter.
Oui.
Et sur le bureau. Je pense que tout est sur le bureau.
Ça, par contre, c'est voilà, le site, il suffit qu'on clique dessus et voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, PowerPoint, je ne sais pas comment on fait. Je suis là, c'est...
Ah, ben voilà. Ça, je voudrais aller sur le...
Prenez la main, jeune homme.
Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, pendant que vous parlerez, nous verrons quelques images qui présentent soit votre collection, soit des actions ou des expositions dans lesquelles vous avez participé. Et on verra le site internet de Bruno de Charme. Donc, premièrement, j'aimerais bien que les uns à la suite des autres vous présentiez rapidement le style de votre collection, parce qu'elles sont toutes extrêmement différentes. Donc, on peut-être. Jean Coran.
Là, si vous pouvez.
Essaye,
là.
Essaye par là. Voilà.
Ah, ouais, pas mal. Ça va, vous êtes réveillé.
Bon, alors. En fait, nous avons commencé, je vais très vite, hein, on a commencé à collectionner en des années 60. Et en fait, on a collectionné d'abord la peinture, ensuite la sculpture, ensuite de la photo. Et en 96, on a commencé à collectionner la vidéo. En fait, on était très fanatique de l'image en mouvement. Et quand on a vu qu'il y avait une vidéo dans une galerie, ben, image en mouvement, art contemporain, ça nous a vraiment plu. Et depuis 22 ans, on n'a pas arrêté de collectionner de la vidéo, mais uniquement de la vidéo. Alors, le style de la collection, moi, je ne peux pas dire. Nous, en fait, on a toujours acheté des jeunes artistes depuis le début, enfin, la vidéo, hein, et coup de cœur. Uniquement coup de cœur, pas de thème, pas de géographie, pas de rien. Coup de cœur. On aime, on achète. Voilà. Alors, vous me direz, est-ce qu'il y a une cohésion dans le travail, dans ce qu'on choisit, etc. Est-ce qu'on peut... Finalement, je crois que c'est Christine Vanage du Pompidou, quand elle a fait notre exposition à Maison Rouge, qui a effectivement remarqué une ligne dans ce qu'on avait. Elle a choisi des œuvres pour l'exposition. Depuis, d'ailleurs, on a fait 18 expositions dans 18 musées, dans 15 pays, je crois. On a été en Chine, on a été à Séoul l'année dernière, on a été en Argentine, enfin, bon, on a montré partout. En fait, l'idée c'est de passer. Notre boulot, c'est un boulot de passeur. On veut montrer notre collection pour la faire vivre, on veut montrer les jeunes artistes qui sont dans notre collection. Comme ça, ça leur donne une visibilité. Enfin, bref, je vais arrêter, je ne veux pas...
Fait que commencer. Donc on a déjà un très bon exemple de collectionneur qui ne fait pas que conserver et accumuler des objets, mais qui prête et qui participe à des expositions. Et je crois que c'est un petit peu la caractéristique de vous trois dans cette table ronde aujourd'hui. Donc maintenant, je voudrais que Alain Leprovost, vous parliez.
Oui, bonjour à tous. Ah non, je suis désolé, j'ai pas présenté 18 fois ma collection. À Angers, c'est la première fois et... Peut-être ça sera la seule fois. Comment les choses ont commencé, je suis bien incapable d'y répondre. Première paye, première visite dans une galerie. Et les choses n'ont fait que s'accentuer. C'est pour ça que je dis que je suis gravement malade, parce que les choses ont été en accélérant. On a présenté un petit peu, souvent, vous avez remarqué, on parle en ce qui me concerne de Marcel Duchamp. Donc, je voudrais mettre un terme à cette légende. Il n'y a pas que Duchamp dans ma vie. Et il n'est que dans une pièce de mon appartement. Là, il n'est que sur un mur à Angers. Mais beaucoup de jeunes artistes qui sont d'ailleurs présentes ici, que ce soit Ariane Yadan ou Marine Provost, n'ont aucun lien a priori avec l'œuvre de Marcel Duchamp. Ceci dit, vous parliez d'intuition. Donc j'ai regardé dans le dictionnaire, et intuition, connaissance directe de la vérité, sans recours au raisonnement, à l'expérience, sentiment irraisonné, non vérifiable. Alors là, effectivement, ma collection n'est absolument pas de l'ordre de l'intuition. Il me faut du raisonnement, autrement ça ne fonctionne pas très très bien. Donc absolument, pour ça que je suis... L'idée de découvreur aussi m'embarrasse un peu, parce que quand je vois une œuvre, de toute façon j'ai un a priori favorable avec tous les artistes, le mot amour a été dit, j'aime les artistes, et donc, mais il me faut un petit peu de temps après pour me demander si ce que j'ai vu était vraiment intéressant. Et c'est vrai que les lectures sont importantes, les critiques d'art sont indispensable à mon avis, et oui, et plus assez sollicité à mon humble avis, et on fait trop appel malheureusement à l'intuition, et pas assez au raisonnement. Donc si c'est le lien peut-être qu'on peut avoir avec Marcel Duchamp, c'est que c'est un homme qui faisait peu mais réfléchissait beaucoup. Donc ma collection est peut-être peu volumineuse et c'est pour ça que je ne pourrais pas faire 18 expositions, mais au moins j'ai essayé de la penser. Mais c'est tellement épuisant de penser, j'ai décidé en 2016 d'y mettre un terme. Et l'œuvre, la dernière œuvre de ma collection est présentée au musée. C'est l'œuvre de Julie Fortier qui s'appelle La Collection, qui est un parfum. Ceci dit, je continue mon soutien aux artistes par des acquisitions qui deviennent hors collection. Bon, je suis le seul à trouver une certaine logique dans ce propos, mais intellectuellement, ça me va bien. Et puis, je relisais la semaine dernière un livre fabuleux de Joanet, Artiste sans œuvre, et je me disais, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un collectionneur sans œuvre ?
Merci beaucoup. On va. Ah oui, pardon. Oui.
Bonsoir. Alors, on a tous notre profil. Alors, évidemment, c'est toujours très difficile de parler de soi. Hein. On est beaucoup plus à l'aise en fait face aux œuvres qu'on acquiert que de se mettre de parler de soi. C'est toujours très compliqué. Alors moi, j'ai commencé à collectionner au début des années 80. Alors là, ça a été, je ne sais pas si c'était une intuition ou si c'était autre chose, mais ça a été un véritable coup de foudre avec la collection que Jean Dubuffet avait offert à la ville de Lausanne. Donc j'ai découvert cette collection dans les années 70, 75 plus exactement, et il y a eu une véritable rencontre. Et à partir de là, j'ai commencé sans vouloir collectionner, parce qu'a priori, ce n'est pas un truc qui m'intéresse du tout, mais de fil en aiguille, on a une œuvre, deux œuvres, trois œuvres. À l'époque, il n'y avait pas de marché du tout, ou quasiment pas, donc on s'échangeait des œuvres, on se les offrait entre copains, et puis les choses se faisaient, puis l'intérêt grandissait, puis on se retrouve à un moment avoir accumulé, on ne sait pas très bien pourquoi. Et alors, moi, j'ai toujours entretenu avec ces œuvres d'art brut qui sont particulièrement complexes, une sorte de simple jouissance de me laisser aller avec ces œuvres. Mais dans le sujet, ce n'est pas suffisant. Alors, j'ai eu envie de partager ça en créant une association qui réunissait des gens beaucoup plus intelligents que moi, qui étaient des critiques d'art, des psychanalystes, enfin, des gens formidablement intelligents, et avec lesquels on a commencé à réfléchir à travers cette association qui s'appelle ABCD, Art Brut, Connaissance et Diffusion. Et voilà, donc avec cette collection que je prête souvent, j'ai organisé un certain nombre d'expositions. Elle continue à vivre, je ne dis pas quotidiennement, mais si, en fait, elle nous habite tous 24 heures sur 24, voilà, d'une façon évidemment obsessionnelle, mais ça c'est un gros poncif. Donc maintenant la question qui se pose pour moi, c'est, je pense que c'est une question qui doit aussi vous tarauder, vous tous, collectionneurs, c'est qu'est-ce qu'on fait après ? Ça c'est vraiment une véritable, un petit peu angoisse. Pourquoi ? Parce que dans ce domaine de l'art brut, il y a tout un corpus. Sur les à peu près 4000 œuvres que compte la collection, il y en a à peu près 500 ou 1000 qui sont absolument introuvables aujourd'hui, qui sont des véritables trésors parce qu'elles ont été uniques, parce qu'elles ont été sauvées, parce qu'elles ont des histoires qui fait que plus jamais on pourra les trouver. Alors évidemment, on a une espèce de responsabilité mêlée à une sorte d'orgueil, hein, faut pas non plus trop en faire, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Donc l'idée que j'ai pour l'instant, c'est ce qui germe dans ma tête, c'est de faire une donation sur un certain mode, faire une donation de ce corpus-là dans un fonds de dotation, de telle sorte qu'il sorte de ma propriété, de mon patrimoine, avec la certitude ainsi que le jour où je ne serai plus là, ce corpus restera absolument inaliénable. Voilà, ça je pense, pour moi c'est très important. Pour le reste, ce sont des œuvres qu'on peut trouver, disons, sur le marché. Et après soi, il ne faut pas non plus imaginer que la Terre s'arrête de tourner. Voilà, donc c'est un peu le process. Et à ça s'ajoutent des discussions en ce moment avec deux ou trois musées qui seraient intéressés de travailler avec moi sur cette collection pour créer ou enrichir un département d'art brut. Voilà.
Alors, on est déjà parti dans l'après, mais peut-être faut-il revenir dans l'avant. Très, très rapide. Donc, on ne va pas clôturer tout de suite la table ronde, donc on va revenir sur l'avant. Et peut-être que vous pourriez revenir les uns les autres sur la façon dont vous avez démarré votre collection. Donc, Jean Corat, tout à l'heure, tu as parlé d'œuvres plus classiques avant de s'aventurer sur le terrain de l'art en mouvement et donc de l'image en mouvement, de la vidéo. Donc, une question qui revient très souvent quand on parle de votre collection, à toi et Isabelle, c'est comment vivent-ils avec toutes ces vidéos ? Alors, on imagine que vous avez des écrans partout chez vous, et évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Donc, comment vous avez commencé à acheter un certain nombre de vidéos et comment vous vivez avec ?
Première question, première réponse à la première question, c'est effectivement au tout début, on a acheté des œuvres d'artistes établi, consacré, parce qu'on n'était pas bien à l'aise, enfin, on ne se sentait pas bien à l'aise. On a acheté plutôt des noms, quoi. Enfin, je veux dire, on a acheté ta pièce, on a acheté toutes sortes d'artistes très connus, des bricoles, quoi, Gerhard Richter et compagnie. Mais, des petites bricoles. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à cette époque-là, on achetait plutôt des œuvres muséales, quoi. Ça, c'est clair. Et à un moment donné, quand on a commencé à collectionner la vidéo, moi j'ai dit, on n'est pas un musée, on a tout vendu. On a vendu toutes les œuvres muséales. Comme ça nous a fait des moyens pour acheter des vidéos. Et alors, après je sais pas quoi dire d'autre, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. On a fait table rase et on a redémarré. Comment ?
Où les avez-vous trouvées, ces vidéos ? C'était des galeries qui vous les proposaient ?
Les vidéos, ce qui se passe, c'est qu'on a, ma femme et moi, on a vécu 32 ans hors de France. Et on a été aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en Belgique. Et finalement, hors de France, pour nous, c'était acheter de l'art contemporain, enfin, s'intéresser à l'art contemporain et acheter de l'art contemporain, c'était une façon d'essayer de mieux comprendre les gens des endroits où on habitait. Et ça, c'est vrai, c'est intéressant, les artistes anglais, les artistes espagnols, etc. Enfin, ça nous a permis de comprendre un peu mieux, enfin, de chercher à comprendre, en tout cas, les gens, la mentalité des gens dans les pays où on habitait. Voilà. Donc, on a acquis, par ces déplacements, ces déplacements internationaux, on a acquis, si vous voulez, une espèce d'ouverture par rapport à d'autres cultures, par rapport à d'autres mentalités. Voilà. Et on a continué toute notre vie à acheter des artistes hors Europe. D'abord en Europe, mais maintenant hors Europe. On a 48 nationalités dans notre collection. Et maintenant, je crois qu'on couvre pratiquement tous les continents. Donc on est... pour nous, ce qui se passe, c'est qu'une œuvre, est une œuvre de qualité, mais d'où qu'elle vienne. Ça peut être une œuvre du Sri Lanka. Nous n'avons pas de préjugés par rapport à une production, par rapport à une œuvre. Nous, on aime une œuvre, point. Et l'intuition dont vous avez parlé tout à l'heure, moi, ça m'est arrivé certaines fois d'être vraiment en interrogation devant une œuvre. Mais par contre, dans ma tête ou dans moi, il y avait quelque chose qui me disait que c'était vraiment quelque chose d'important. Et j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dedans et j'ai mis beaucoup de temps à la comprendre. Mais finalement, quand j'ai acquis l'œuvre, après que ça a fait tilt ou je ne sais pas quoi, j'étais vachement content. Et c'est vrai. Aujourd'hui, il y a des œuvres, franchement, je pourrais citer quelques œuvres, mais franchement, j'ai eu un mal fou à rentrer dedans. J'ai eu un mal, je ne comprenais rien, etc. Et même d'autres collectionneurs avaient le même problème que moi. Et finalement, au bout d'un certain temps, aller regarder, etc., je sais pas, un jour, il y a eu un déclic. Et alors, il y a des gens qui ont tendance à rationaliser, c'est-à-dire à essayer. Vous savez, c'est comme quelqu'un qu'on aime. On l'aime. Bon. Puis il y a des gens qui vont faire toute une rationalisation autour de cette question. C'est vachement difficile de rationaliser. Si vous aimez, c'est, très difficile de décortiquer pourquoi vous aimez quelqu'un. Et ben, c'est la même chose avec une œuvre d'art. Moi, je pense que c'est très difficile. Les gars qui font des gens qui font une analyse, c'est peut-être bien, mais moi, c'est pas. Il faut croire au Père Noël. C'est pas si mal.
Alors, je suis tout pareil comme vous, sauf que j'ai pas quitté Nantes. Donc, Nantes.
C'est pas grave.
Donc, c'est pas grave. Donc, il est vrai que mes premières acquisitions ont été faites dans la galerie que je pensais être la galerie d'art contemporain de ma ville. Il m'a fallu un certain nombre d'années pour me rendre compte que peut-être ce n'était pas l'art contemporain le plus actuel qui y était exposé, c'était plus classique. Et après, des rencontres d'artistes ont été importantes. Moi, ce que j'ai retient comme date importante dans ma vie de collectionneur, c'est que vous le disiez, vous avez tout revendu. C'est beaucoup plus facile de faire des acquisitions d'œuvres de personnes beaucoup plus âgées que vous, parce que, entre guillemets, l'histoire a déjà été écrite. Et je me souviens très bien du jour où j'ai fait mon acquisition d'une photo de Valérie Belin, qui a mon âge. Donc c'est quelque chose qui dans ma collection a eu un sens. Je me suis dit bon maintenant je m'intéresse à ma génération. Après bien évidemment j'ai eu envie de m'intéresser à la génération plus jeune que moi. Donc vous verrez quand vous visiterez l'expo à Angers mes trentenaires. Je m'interroge moi non pas du tout quant au devenir de ma collection. Ça, franchement, ah ouais. Je vous le dis franchement, ça d'autres qui s'en occuperont. Je m'interroge par contre sur mon appétit à continuer à m'intéresser à des œuvres d'artistes de la génération qui viendra, de cette génération des artistes qui ont 18, 19, 20 ans maintenant, où je m'aperçois que là, il y a une différence d'âge et donc de culture et de centre d'intérêt que je me demande si je vais être capable de suivre. Et capable ou voir l'intérêt quoi. Voilà, c'est donc c'est l'avenir moi de ma collection qui m'interroge. Et vous avez bien compris que effectivement la collectionnite est une maladie. Nous entassons. Alors je crois que la vidéo est beaucoup plus simple parce que ça vous prend beaucoup moins de place. Moi j'ai une vidéo exactement dans ma collection et effectivement c'est vraiment impeccable. Et donc au bout d'un moment de continuer à entasser, moi ce qui m'a beaucoup surpris lorsque Dominique a fait sa présentation et que donc j'avais lu dans son livre, c'est que le fait que maintenant, par exemple, pour Ariane, on a publié un livre chez Joca Seria, j'ai fait un catalogue des œuvres d'Emmanuel Villard, cette façon que nous avons de changer un tout petit peu notre façon de dépenser notre argent en aidant les artistes d'autres façons qu'en faisant simplement une acquisition, je me croyais unique et malheureusement je me rends compte qu'on est beaucoup à faire comme ça en se disant qu'à un moment ça n'a plus beaucoup d'intérêt d'entasser et qu'on peut aider les artistes également d'une autre façon. Et moi je suis très heureux de cette exposition au musée d'Angers parce que mes jeunes artistes sont au musée quoi, et ils m'ont fait confiance et je les ai amenés là et maintenant il faut que parmi vous il y ait d'autres collectionneurs, d'autres critiques qui s'emparent de ces artistes que j'aime bien pour leur faire franchir une autre étape. Moi, je ne pourrais pas les emmener beaucoup plus haut que le musée d'Angers. Ma collection ne le permet pas. Mais parmi vous, il y en a sûrement qui peuvent y arriver. Donc, je transmets le flambeau avec plaisir.
Et donc, Bruno ?
Alors le problème, enfin, je vais rebondir un peu sur ce que vous disiez sur cette histoire de responsabilité finalement du collectionneur par rapport aux œuvres. Dans le cas de l'art brut, on est dans un schéma qui est tout à fait particulier parce que finalement on collectionne des gens qui n'ont strictement rien demandé à personne, qui ont fait ça dans leur coin, ce qui ne veut pas dire que ça a été volé et quoi que ce soit. Ça, c'est encore un lieu commun et un mythe qu'il faut dézinguer, parce que pour 95% des cas, le parcours, soit parce qu'ils sont décédés et que ce sont des œuvres qu'on a retrouvées bien après leur mort, donc la spoliation au pire est familiale, si je peux dire, ou quand ils sont vivants, la plupart du temps, il y a un encadrement qui fait qu'ils sont relativement bien protégés. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des cas particuliers où il y a peut-être des choses qui peuvent être limites. Mais bon, il n'empêche qu'on quelque part, on se retrouve dépositaire d'œuvres qui ne devraient même pas être là. Donc, on est un petit peu... Bon, c'est aussi impensif de dire qu'on est des passeurs, mais en l'occurrence, c'est un peu vrai, puisque entre l'artiste et le regardeur, bah, on est là comme ça. La chaîne n'est pas celle qu'on peut entretenir dans un lien d'un collectionneur avec un artiste... Qui a un rapport, je dirais, conscient et clair avec le monde. Donc c'est pour ça que la chose est un petit peu plus complexe, et quand on sait que ces œuvres, pour beaucoup, ont été sauvées de l'horreur, parce que c'est souvent le cas dans ces histoires, on se dit qu'on se doit quelque part aussi de participer à ce qu'elles restent. Voilà. Et de leur trouver peut-être un cadre qui fait qu'elles seront protégées quand on imagine d'où elles viennent et l'histoire dramatique dans laquelle elles ont été conçues et souvent détruites, puisque beaucoup de gens qui entouraient ces artistes d'un genre particulier les détruisaient parce que ça ne les intéressait pas. C'est quand même 80% de l'histoire de l'art brut. Voilà. Et probablement d'ailleurs dans ces magnifiques œuvres qu'on a... ma collection et plein d'autres, évidemment. Et probablement, ça représente 5% de chefs-d'œuvre qui ont été détruits. Voilà, donc c'est un peu ça. Je réponds en deux. Oui. Alors après ça, dans le process de collection, ça a été des rencontres, et à chaque fois, c'est des coups de cœur. Et à chaque fois, je reprends un petit peu ce qui avait été dit tout à l'heure sur le collectionneur qui construit un bâtiment. Je me sens assez comme ça avec la brique qui manque, parce qu'effectivement, il y a toujours la brique qui manque, et il y a toujours le mystère de comment se fait-il que ce monsieur qui était totalement à l'ouest pour être un peu presque vulgaire, a pu produire une œuvre aussi extraordinaire, aussi élaborée, aussi sublime, comme Adolphe Wolfli et bien d'autres. Donc évidemment, il y a une interrogation fondamentale sur les process de création qui fait qu'on a envie d'avoir une pierre en plus qui peut-être donnera une réponse, ce qui est totalement évidemment illusoire. Voilà, donc on accumule.
C'est exactement pour ça que je voulais mettre un terme à ma collection. Je ne veux plus faire d'architecture. C'est épuisant parce que vous voulez que votre bâtiment soit le plus beau possible. Malheureusement, en art contemporain, le prix des œuvres des artistes qui me manquent dans ma collection, je ne peux plus les acquérir. Je cite à l'occasion de cette exposition, en rapport avec l'œuvre de Christophe Viard, toujours la même histoire, je l'associerais bien volontiers à un Iltoroni. Ok. Et l'œuvre de Cécile Barthes me semble aller forcément avec une œuvre d'Alan Charlton. Ces deux artistes-là, je les vois au Musée des Beaux-Arts de Nantes, j'en suis heureux, mais moi je ne peux pas le faire pour ma collection. Donc ma collection, entre guillemets, si elle doit être qu'une collection de jeunes artistes, ça me passionne assez peu. Donc du coup, cette idée d'en mettre un terme, c'était de me remettre l'esprit libre et de... choisir mes œuvres sans penser à une certaine cohérence avec le reste de ma collection. C'était trop fatigant. Je réfléchis trop.
Ouais, il ne faut pas trop réfléchir.
Alors, puisqu'on parle de maison et d'architecture, une question qui est importante aussi, c'est, puisque la plupart... vous trois, vous vivez avec vos œuvres. La question est, comment vivez-vous avec ces œuvres ? Donc, je sais que Alain Leprovost, vous avez une pièce dédiée à ce fameux Marcel Duchamp, une seule pièce. Mais vous avez d'autres pièces qui sont présentées différemment. Et puis donc on a commencé à aborder cette question avec Jean Conrad.
Je n'ai pas répondu.
Comment ?
Je n'ai pas répondu à la question.
Non, justement, comment vivez-vous avec vos vidéos ?
Quand nous avons eu notre exposition à la Maison Rouge à Paris, il y a une dame
qui... Ça n'a rien à voir avec moi.
Il y a une dame qui est sortie de l'exposition et qui m'a dit « Alors, monsieur le maître, vous vivez dans un cinéma ?» Je lui ai dit « Non. Nous, on a un salon, et dans ce salon, il y a une table avec un écran. À l'époque, on avait un moniteur. Et il y a un moniteur, et puis un lecteur, et on regarde nos œuvres comme ça. Et après, quand c'est fini, on range tout, et puis c'est un salon. Vachement bien. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des collectionneurs, les plus gros collectionneurs privés, je crois, parmi les plus gros au monde, c'est les Kramlich, qui sont en Californie. Et eux, ils ont des écrans, des LCD ou des écrans plats, partout, et qui diffusent des vidéos tout le temps. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais paraît que Madame Kramlich est assez gênée par le bruit, parce qu'il y a certaines qui sont un peu bruyantes. Moi. Mais ce qui se passe, c'est que nous avons commencé à collectionner, bien avant ça, nous avons collectionné des gravures. Et en fait, ce qu'on faisait, on achetait des gravures, on les mettait dans un classeur, et quand les gens venaient à la maison, on choisissait certaines gravures, on retirait le classeur qui était sous le lit, on prenait certaines gravures, on les montrait, les nouvelles acquisitions. Et les vidéos, c'est un peu comme ça chez nous. C'est-à-dire, c'est la même idée. D'ailleurs, la vidéo, c'est gravé, hein. C'est quand même intéressant, gravure. Et en fait, les vidéos, on les a dans un placard. Enfin, on a sur disque dur maintenant, mais enfin, on a quand même des DVD. Et quand des gens viennent à la maison, on leur montre.
C'est pas la soirée diapo, c'est la soirée...
Comme disait ma femme, c'est comme être avec des copains et regarder un match de foot. Et c'est vrai. Il y a une convivialité, c'est sympa. On regarde ça, mais c'est pas sur les murs. Il y a rien. Enfin, il y a des photos sur les murs. Il y a des choses du passé qui sont encore là. De toute façon, je vais vous dire une chose, parce que vous m'avez fait penser. Je crois que collectionner, c'est comme écrire un bouquin. C'est marrant. En fait, quand vous écrivez, que vous êtes en train, votre page est blanche et vous êtes en train de... Enfin, vous allez commencer à écrire, vous avez quelque chose dans la tête, une inspiration. Vous avez besoin de l'objet, vous avez besoin de la pièce, l'œuvre. Mais une fois que vous avez écrit le chapitre de votre collection, vous n'avez plus besoin de l'œuvre. C'est là-dedans. Extraordinaire, hein ? Vachement intéressant.
C'est du champion, mon ami.
Avec la collection de vidéos qu'on a, si on n'est pas du champion, alors c'est quand même étonnant. Non ? Hein, la valise, enfin, le musée en valise. Là, voilà, donc, pardon, je vous ai dit comment on montrait nos vidéos.
Et l'autre question aussi, c'est quand vous présentez vos vidéos, vous les présentez donc dans des invitations qui vous sont faites dans des musées, et ça vous permet aussi de tester les différentes manières de présenter de la vidéo.
En fait, on n'a jamais sollicité un musée pour montrer notre collection, mais je pense que comme on était des collectionneurs uniquement de vidéos, ça titillait pas mal les musées, ça intéressait les musées, le public, etc. Bon, alors du coup, tant mieux, parce que nous, on a pu montrer notre collection. Et ce qui se passe, c'est que c'est très compliqué, en fait. C'est pas que la vidéo soit compliquée, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, non, mais vos DVD, tout ça, dans un an, c'est fini, c'est obsolète, tout ça. Mais enfin, ça, c'est parce que les gens veulent pas collectionner. Alors, ils ont qu'à le dire franchement, ils ont qu'à dire, j'aime pas la vidéo. Réglo, respectable. Mais les types qui trouvent toujours des moyens, disant oui, mais vous comprenez, on peut copier, on peut ci, on peut... Ça, c'est vraiment des faux jetons. Hein. Franchement, alors... Bon, alors, pour en revenir à l'exposition des musées, le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a des artistes qui exigent des... Enfin, d'abord, on demande toujours l'accord des artistes pour montrer les œuvres. Mais pour les montrer, et aussi, comment les montrer. Et oui, parce que vous savez que si vous demandez à un avocat, l'avocat vous dira « Ah, mais attention, monsieur le maître, vous devez avoir un accord écrit de l'artiste pour le montrer dans un musée. » Bon, c'est-à-dire que ça s'appelle une cession de droit à titre gratuit. Bon, oui. Mais... Moi, ce que je fais, je n'ai pas une session de droit à titre gratuit qui est un chèque en blanc pour montrer n'importe où dans un garage, et je ne sais pas. Moi, je contacte les artistes ou leurs représentants et je leur demande l'autorisation et comment il faut les montrer. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des cas, par exemple à Séoul, ils voulaient montrer Steve McQueen. Ils voulaient montrer une vidéo. Il exigeait que ce soit sur un écran, sur un moniteur des années 60, sur un piédestal noir, mais un moniteur, un Trinitron Sony, vous vous rendez compte. Alors, ils ont dit, à Séoul, ils ont dit, on n'a pas trouvé un Trinitron Sony noir, mais on a trouvé l'équivalent, une autre marque, l'équivalent. Et l'artiste a dit, pas question. Oh. Non, il y a seulement deux endroits où il y a du Trinitron Sony, c'est New York et Paris. Et en fait, l'idée intelligente, ce serait d'en acheter un, et puis quand on fait une exposition, ben, de le prêter. Alors ils m'ont dit, ben oui, mais pourquoi est-ce que... C'est Marianne Goodman qui a dit, pourquoi vous ne l'envoyez pas de Paris, là-bas, à Séoul? Non mais, c'est quoi encore? Hein? C'est un paquet, ça. Bon, enfin bref. Mais on n'a pas eu tellement de problèmes, parce que il y a, par exemple, des endroits où les murs ne sont pas assez hauts et l'artiste demande 3 mètres de haut et c'est seulement 2,50 mètres. Il faut demander à l'artiste et puis si l'artiste est cool, ça marche. Et puis, il y a un endroit où ils avaient un projecteur, parce qu'on a montré un film, et c'était à Citadine, il y avait un projecteur et le projecteur pouvait uniquement tourner pendant même pas une demi-heure. Parce qu'après, il chauffait trop, il fallait l'arrêter pendant au moins 3/4 d'heure, et après, on pouvait recommencer. Non, mais vous savez... Hein,
vous avez une vie compliquée. Hein.
Oui. Non, ce n'est pas très compliqué, mais si on va dans des endroits très lointains, c'est vrai que les gens, le musée en question, il va s'adresser à vous pour que vous fassiez toute la coordination. Ah oui, il est trop loin, il ne va pas téléphoner aux artistes, etc. Donc c'est moi qui dois faire tout le boulot. Et c'est vrai qu'en Corée, c'était vraiment un cauchemar. Mais, ah oui. Et en Chine, n'en parlons pas, parce qu'on a fait 4 expositions en Chine. Je peux vous dire que là-bas, on ne peut pas envoyer des trucs par Google, tout ça, etc. Donc il a fallu qu'un type, un Chinois, aille là-bas avec des clés USB. Ouais. Et alors, le mieux, c'est que les clés USB... Elles étaient trop petites, donc c'était trop compressé. Donc les images n'étaient pas bonnes. Donc il a fallu en renvoyer un autre Chinois avec des clés plus grosses. Non mais c'est dingue. Il y a plein d'histoires à mourir de rire. Hein. Bon, voilà.
Donc Alain, pour vous c'est plus simple alors.
Oui, je bah écoutez, oui c'est plus simple. Je vis très tranquillement au milieu de mes œuvres, accroché. J'en change en l'ordre de nouvelles acquisitions, j'en change légèrement l'accrochage, mais en gros j'aurais pu vivre dans le musée d'Angers, là c'est à peu près assez représentatif, voilà, je vis dans un musée aussi.
Alors chez moi il n'y a rien du tout, c'est vide, voilà, donc il n'y a aucune œuvre chez moi, elles sont toutes beaucoup prêtées, voilà, dans des réserves, elles sortent. Quand je prête, c'est l'occasion de les revoir. Quand on fait une publication, c'est l'occasion de les revoir. Ben voilà, elles vivent au travers de leur vie, disons, en dehors de chez moi. Parce que chez moi, il n'y a rien. C'est mur blanc. Et, enfin, mur blanc, pas, c'est pas aseptisé, mais je veux pas les avoir.
Donc ça veut dire qu'elles sont dans des réserves. Mais vous avez un logiciel qui vous permet de savoir exactement archiver toutes ces œuvres.
Il y a un truc classique, hein, tout est référencé, on sait où c'est, on sait quand ça sort, quand ça revient. Enfin voilà, c'est Il y a, oui, une régie, mais simple, hein, ce n'est pas une usine à gaz. Enfin, on n'est jamais content de ces réserves, parce qu'il n'y a que les musées qui ont les moyens de se... Et encore, non, ce n'est pas vrai. Non, mais enfin, on n'est jamais... De toute façon, voilà, on n'est jamais content, parce qu'il y a... Non, mais sans plaisanter, enfin, pour des privés, les problèmes de conservation sont très complexes. Alors qu'effectivement, les musées ont des structures pour. Et là, c'est vraiment un vrai, vrai problème, particulièrement dans les œuvres dont je m'occupe, qui sont d'une fragilité... Alors là, ça, je tremble, je fais des cauchemars. Là. Enfin, je me dis, je vais ouvrir une porte, et il y aura tout qui va tomber en poussière. Enfin, c'est horrible. Voilà. Non, c'est pour ça qu'il faut... non, mais je suis comme vous, moi, je veux me débarrasser de tout ça. Il y a un moment, il faut que ça parte. Quoi. C'est plus possible. Hein. Il y a... Non, non, il faut faire le vide. Quoi. Enfin bon, mais le problème, c'est dès qu'on le décide, le lendemain, il y a un truc qui arrive et puis on l'achète. Alors, on s'en sort jamais. Tous les deux mois, je prends... Enfin, voilà, c'est le dernier verre, quoi. Mais il y en a toujours un qui vient le lendemain et... C'est un, non mais vraiment, c'est, quand tu disais que c'est une addiction, mais c'est réel, c'est une véritable addiction. Alors moi j'ai un copain qui est psychiatre et qui travaille dans les addictions, enfin voilà, comme beaucoup de psychiatres, et il est en train d'ouvrir un département sur les addictions de collectionneurs, et il veut me prendre comme cobaye. Alors, mais non mais c'est un vrai truc, c'est du même ordre, hein, c'est vraiment du même ordre.
C'est absolument évident.
Non,
mais
non, c'est un truc terrifiant. Hein.
Mais terrifiant, mais tout
et
le
puis sur le problème d'argent, de dette.
Mais on est les seuls addicts pour lesquels il n'y a aucune structure pour nous aider.
Voilà,
tout le système du marché de l'art fait pour que continuions à succomber. Et personne ne nous aide. Nous sommes des victimes, madame. Vous avez entièrement raison.
Voilà, nous sommes des victimes. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, alors, les dealers d'art sont encore pires que les dealers qui vous vendent parce qu'ils vous font des petits sourires, des machins.
Vous avez remarqué que quand vous allez dans... Quand vous allez voir votre galeriste préféré, il vous présente un nouvel artiste. Et il vous dit, c'est le nouveau, c'est génial. Vous le croyez sur parole, vous faites l'acquisition, vous êtes heureux. 2 ans après, vous le revoyez, il vous dit « Ah, le nouvel artiste qui est génial, c'est celui-ci. Ah, c'est un autre. Ben oui. » Et quand vous regardez les galeries, comment fonctionnent-elles? Une fois qu'elles ont vendu leurs œuvres à tous leurs collectionneurs, l'artiste que vous aimez disparaît de cette galerie. Mais si, bien sûr. Moi, j'ai acheté une seule œuvre à M. Perrotin. Avant qu'il soit cette vedette. C'était des photos de Jean-Pierre Cazem, des photographies que j'aime vraiment beaucoup, toujours beaucoup, et un jour, il a disparu de cette galerie. Pareil pour les photos de Miwa Yanagi, il y en a une représentée dans l'exposition à Angers. Elle était exposée chez Almin Reich. Bon, voilà. Elle a dû vendre ce qu'il fallait d'œuvres à ses collectionneurs. Et maintenant, cet artiste n'est plus représenté en France. Mais c'est vraiment un grand problème. Parce que moi, cet artiste-là, je continue à aimer son travail. Et on ne le voit plus. Mais par contre, elle nous a amené 2 nouveaux artistes, nous disant que ces nouveaux, ben, c'était ceux-là qu'on devait avoir. Et donc, je veux dire, le système... Nous sommes victimes. Oui.
Oui.
Pardon ? Ah, mais je les vois tout le temps. Mais si, c'est ce que vous disiez tout à l'heure avec vos vidéos. Une fois que c'est imprimé, il y a. Mais non, mais on les voit en prêtant, on les voit. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir. Alors c'est l'occasion. On a beaucoup d'étudiants qui nous appellent. Et puis bah voilà, parce qu'ils ont envie de faire des thèses de doctorat sur l'art brut. Je vous dis pas, il y en a une par jour qui arrive. Donc ils viennent nous voir. Donc on leur montre des œuvres. On passe du temps avec eux et on les voit. On les voit toujours à travers un projet, quoi. Mais avoir ça chez soi, c'est...
Un des syndromes que nous avons tous en collectionneurs, où souvent je parle avec les collectionneurs nantais qui sont là, c'est quand un jour vous recevez une œuvre bien emballée et que vous n'avez plus besoin de la déballer.
Absolument.
Et ce jour-là, parce que l'œuvre, vous la connaissez, l'œuvre en question, je la connais, j'ai l'impression intimement, j'ai même plus besoin de la regarder, et je me suis dit, mais là, vraiment, si je n'ai plus besoin même d'ouvrir le paquet... Oula, c'est que c'est vraiment très très grave. Voilà, donc tout à l'heure, du coup je m'intéresse de plus en plus à l'art conceptuel, parce que là effectivement on peut collectionner une idée, et ça c'est bien.
Ce
Ce qui se passe, c'est que, enfin, moi je parle pas de la vidéo, mais je parle de l'intérieur, c'est-à-dire des peintures, tout ça. Ce qui se passe, c'est que quand vous avez des peintures dans votre salle de séjour et dans le salon, vous les regardez tous les jours, mais à la fin, vous ne les regardez plus. Ça fait partie de tous ces problèmes. Si vous avez, à un moment donné, vous ne vous rendez plus compte de ce que vous avez. La santé, vous ne vous rendez plus compte, vous êtes en bonne santé. Quand vous êtes malade, vous vous dites, merde, alors là. Bon, eh ben, c'est la même chose. Non, les œuvres d'art, je vous assure, moi, j'ai, à l'époque où on n'avait que des peintures, je m'asseyais le soir dans le salon et puis je regardais mes peintures avant de me coucher. Et après, j'allais me coucher et j'avais une nuit sereine. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, c'est presque une habitude. On ne les voit plus. Alors que les vidéos... Non, mais attendez. Alors que les vidéos, vous les regardez très rarement. Et quand... Écoutez, je vais vous donner un exemple. Si vous avez une petite amie, etc., vous la voyez seulement une fois par mois. Je peux vous garantir que quand vous la voyez, c'est top canon. Eh bien, ouais. C'est un moment énorme. Bon, et ben c'est la même chose avec les vidéos. Vous les regardez comme ça une fois trois semaines, un mois. Non, mais et quand vous les voyez, ça vous fait quelque chose parce que vous les voyez rarement.
C'est ouais, du un coup, ça vous fait plaisir quand je vais regarder ma vidéo que j'ai et que je n'ai jamais regardée. Elle dure 50 minutes. Ça me paraît beaucoup trop long. Mais alors, vous me promettez une extase et j'en suis fort heureux.
Alors, 50 minutes, c'est un peu une vidéo de musée. Excusez-moi, d'exposition. C'est une vidéo d'exposition. Parce que 50 minutes, c'est un morceau. Hein. Alors, si vous êtes le public d'une exposition de vidéo qui a une vidéo de 50 minutes, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes dans une exposition, vous pouvez faire le tour, vous balader, quoi. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle doit être montrée, ça doit être un truc ambulatoire. Et vous revenez, vous regardez, puis vous revenez, c'est comme ça.
Oui, vous avez sans doute raison, mais je manque là, du coup, c'est un manque de respect total et absolu pour l'artiste. L'artiste n'a jamais pensé que vous regarderiez son œuvre en déambulant. Excusez-moi, mais là... Non.
Je sais pas. Il y a des expositions dans lesquelles on déambule.
Et ben vous allez.
Non, mais je suis d'accord.
Ah. Et l'autre chose, il y a des gens qui disent. Pardon. L'autre chose, il y a des gens qui disent finalement, ça prend du temps de regarder une vidéo. Ça prend du temps. Non, mais il y a des gens qui disent, c'est trop long, ça prend du temps. Arrêtez. Quand vous allez au Louvre et que vous allez vous asseoir devant la Mona Lisa pendant trois quarts d'heure, ça ne prend pas du temps, non? La contemplation de la Mona... Comment?
On ne peut pas s'asseoir devant Mona Lisa, il n'y a pas de
chaise. Et il y a beaucoup de monde devant la Mona Lisa aussi.
Mais il n'y a pas de chaise. Si, moi j'y étais. Mais il y a... Ils ont retiré la chaise.
Isabelle, il y a une étude qui dit... Une étude... Oui. Une étude canadienne qui dit que dans un musée, les gens restent en moyenne entre 13 et 30 secondes devant une œuvre. Donc vous restez beaucoup plus longtemps devant ces œuvres.
Non, attendez. Pour visiter un musée comme le Louvre, il faut y aller au pas de course. Mais on note, c'est comme dans les très très grandes foires, on fait du zapping, quoi. Puis on note les trucs qui sont intéressants. Et après on revient et on passe du temps. C'est comme ça que ça se fait.
Alors, il y avait une question.
Je suis désolée de vous couper dans vos déambulations, contemplations, extases. J'aimerais juste revenir sur l'addiction. Vous avez parlé d'un hôpital où il y avait un département qui était consacré aux addictions de collectionneurs. Si vous pouviez nous aider pour...
Parce que vous êtes dans le même cas.
Non, pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là.
Il y a des études.
Quel est cet hôpital, ce médecin? Si vous pouviez donner quelques précisions, je pense qu'il y a beaucoup de gens intéressés, et moi la première.
C'est des services d'addiction qui travaillent sur la drogue, l'alcool. C'est de la psycho, je sais pas quoi, compagnie. Non, c'est pas de la psychanalyse, c'est tout. Voilà.
Mais c'est
développé.
Comment s'appelle votre ami psychiatre?
Je peux pas vous le dire comme ça, mais je pourrais vous envoyer un mail si vous voulez. Non, mais parce que c'est... Voilà, vous ne pouvez pas donner comme ça les noms Non, 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 mais vraiment, je peux vous le communiquer comme ça, c'est où il y a vraiment, hein. C'est sérieux. Et elle a fait sa thèse de doctorat sur l'addiction des collectionneurs.
En psychanalyse, en psycho.
En psycho.
D'accord.
Non, c'est pas en psychanalyse, c'est en psycho. Non, mais c'est pas. Nous, j'assure qu'on est des victimes, mais on rigole comme ça, mais c'est pas des blagues. Vous pouvez. C'est comme le jeu, c'est pareil. Elle a travaillé sur le jeu. C'est exactement les mêmes process. Hein. Enfin, les mêmes process.
À Florence, il existe un hôpital où il y a 4 lits qui sont réservés pour les gens qui ont le syndrome de Stendhal.
Ah oui.
Vous connaissez le syndrome?
Oui.
Ben voilà.
C'est face à une émotion intense devant une œuvre. Il y a une question, voilà.
Oui.
Voilà pourquoi, en tant que collectionneur, je reste un célibataire de l'art, parce qu'il ne faut surtout donc pas se marier. J'ai bien compris.
Il y a encore une autre question ici. Le micro.
Merci. Alors ? Ah oui. Non, en fait, justement, je trouve ça très intéressant, parce qu'il y a finalement un parallélisme entre amour et donjuanisme. C'est-à-dire que la collection serait plutôt du côté du donjuanisme, c'est-à-dire qu'à peine on a fait l'acquisition, la chasse est finie et on est déjà passé à autre chose, on ne déballe même pas l'œuvre. Et ce que vous disiez justement sur le fait qu'on ne la voit pas trop souvent et donc voilà, c'est super ça. Mais ce que je trouve paradoxal par rapport à cette belle collection de donjons qui sont face à nous, c'est pourtant la collection se fait souvent en couple et bon, vous en êtes l'illustration, mais il y a plein d'histoires de, ils sont deux dans l'histoire à collectionner ensemble, et je me suis toujours demandé comment ça fonctionnait. Est-ce qu'il y en a un qui régule le donjuanisme de l'autre, enfin, ou c'est un couple pervers, hein, chacun. Voilà, ça m'a toujours fascinée. Comment est-ce que cette pulsion se joue à deux ?
Premièrement, une collection, c'est une œuvre d'art. Une collection qui se fait en couple, c'est une construction, c'est une œuvre d'art qu'on fait ensemble. Donc c'est très très bien pour le couple. C'est très. Et la deuxième chose, c'est qu'on respecte dans un couple, enfin c'est ce qui est dans notre cas, on respecte les sensibilités de l'un et les sensibilités de l'autre. Ma femme, elle a une sensibilité qui fait qu'elle choisit des pièces légèrement différentes. Moi, je choisirais des pièces, d'autres pièces. Mais elle respecte mon choix et je respecte son choix. Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Alors moi j'ai beaucoup de chance, hein, vraiment, non, parce que ma femme est passionnée d'art brut également, mais elle c'est une intellectuelle pur jus, donc elle ne s'intéresse pas à l'objet des œuvres, mais évidemment elle est passionnée par son étude, donc elle me laisse faire, et je pense qu'il y a une certaine jouissance pour elle dédouaner de tout cet aspect addictif épouvantable, et elle n'en tire que le bénéfice de pouvoir travailler sur ces sujets, et elle me laisse me démerder avec tout ça. Mais là où elle pourrait effectivement être elle me laisse faire pour le bien de la collection. Voilà, donc c'est un couple un peu particulier qui se complète tout en étant chacun sur son domaine. Voilà. Mais je suis vraiment le collectionneur. Mais évidemment, chaque fois qu'il y a une œuvre qui rentre dans la collection, je lui demande son avis, dont je ne tiens absolument pas compte, évidemment, mais quand même un peu, enfin, comme tout. Mais, voilà, exactement. Mais non, on se complète vraiment là-dessus. Et voilà, ça aurait pas été possible de faire une collection comme ça sans l'accord, un type de contrat d'accord comme ça, c'est impossible. Autrement, alors là, on se... Parce qu'il faut quand même savoir que ça sacrifie énormément de choses, on peut l'imaginer.
Hmm. Alors, tout à l'heure, Dominique parlait parmi les profils de collectionneurs qu'on peut trouver, ceux qui aiment les objets particulièrement et ceux qui, au contraire, aiment les artistes et aiment les rencontrer. Donc, évidemment, parmi vous trois, forcément, il y a des approches très différentes. Donc, j'aimerais vous entendre sur la question. Donc, Jean Gondrat, tu disais que tu prenais contact avec les artistes pour savoir comment il faut présenter l'exposition, mais l'artiste lui-même...
Avant ça, quand on choisit une œuvre, ce qui se passe, c'est qu'on va choisir l'œuvre. On ne va jamais rencontrer un... Ça m'est arrivé une fois. J'ai rencontré une artiste qui était d'ailleurs très, très, très belle, tout ça. Et j'ai été séduit par l'artiste et finalement, j'ai acheté l'œuvre, mais l'œuvre, c'était vraiment une mauvaise œuvre. Donc, finalement, après cette expérience malheureuse, j'ai décidé qu'il fallait... avoir la relation, le rapport avec l'œuvre. Voilà. Et on a toujours un rapport avec l'œuvre. Et puis voilà, on choisit par rapport à l'œuvre et tout. Après, si on rencontre l'artiste et que finalement ça correspond à l'œuvre, c'est vachement bien. Quelquefois, il y a des cas où on rencontre l'artiste après, on est un peu déçu. Mais enfin, bon, voilà.
C'est d'abord les œuvres.
D'abord les œuvres.
Alors, Alain ?
Oui. Tout pareil. D'abord les œuvres. Et puis. La joie, souvent, de se rendre compte que l'œuvre que l'on a aimée a été réalisée par une artiste ou un artiste que l'on estime. Et après, c'est que du bonheur. Après, faire des acquisitions, la plupart de ma collection, je connais les artistes, je les trouve tous sympas, vraiment. Si j'avais une œuvre, j'ai dans ma collection une œuvre d'une artiste pas sympathique. Mais je suis pas le seul à le penser. Et c'est la seule œuvre que je verrais bien disparaître de mon appartement, mais en même temps, c'est celle qui me prend le plus de place. Parce que c'est une sculpture. Et bon, voilà. Mais l'artiste en question, voilà. Elle n'est jamais... Voilà, bref. Donc, mais en général, sympa. Mais d'abord l'œuvre, bien évidemment.
Bruno, oui,
D'abord l'œuvre, évidemment. Mais évidemment, là aussi, dans le sujet de l'art brut, quand on les rencontre, il y a évidemment un feu d'artifice de plaisir de les écouter quand ils veulent bien parler. Soit dit, volontiers, ils parlent. Enfin, ils parlent. Il nous raconte des choses, en tout cas. Donc là, c'est extraordinaire. Alors, comme mon métier, c'est de faire des films, mon grand plaisir, c'est effectivement de faire des films sur eux. Mais c'est complètement déconnecté à la limite des œuvres. C'est les œuvres pour la collection et les rencontres pour faire les films quand ils acceptent. Mais voilà, ça, c'est. En fait, c'est deux process complètement différents.
Alors, dans l'exposition du musée d'Angers, c'est vrai qu'il n'y a pas de collectionneurs d'art brut qui sont représentés. Par contre, au sein de ma collection, il y a une œuvre qui est également dans la collection ABCD. Donc, voilà. Donc, vous en verrez un petit peu.
C'est une très belle œuvre, d'ailleurs.
Bien sûr, bien sûr. J'en s'en doute pas. On a dû la découvrir, d'ailleurs, peut-être au même moment.
Probablement.
Voilà. Moi, je l'ai placée sur le mur du champ parce qu'il avait appelé sa femme Marie. Marie qui est mise à nu. Et donc, forcément, pour moi, c'était la mariée mise à nu. Voilà. Ouais.
Alors justement, vous ne l'avez pas signalé tout à l'heure, mais quand on parlait de comment vit-on avec les œuvres, vous racontez une histoire, vous avez un accrochage dans lequel vous vivez.
Oui, je vis au milieu des œuvres. Je pense que ma collection est une fiction, donc je me raconte des histoires beaucoup. Voilà. Tout seul, oui. Alors il y a certains artistes qui m'accompagnent dans mes histoires et c'est très plaisant.
Donc justement, je voudrais revenir sur la question d'exposition, puisque tous vous avez exposé tout ou partie de vos collections. Donc on a compris que Jean Conrad et Isabelle, votre collection a été montrée un nombre de fois incalculable, enfin, 13. Donc comment ça se passe? Est-ce que vous êtes sollicité par les musées? Oui. Et est-ce que vous avez l'entière liberté de choisir les œuvres?
Non, pas du tout. En fait, on est sollicité par un musée. Et puis après, c'est un, dans le cadre d'un festival comme France-Israël, comme France-Chine et tout ça. Mais après, il y a un commissaire qui vient là. Il y a un commissaire, il vient à la maison 3 jours et il regarde tout ce qu'il peut regarder comme vidéo. Et il fait un choix. Donc il y a un commissaire qui fait un choix et nous, on n'a rien à dire. Enfin, si, on lui montre. Mais sinon, on ne fait rien d'autre. On lui offre des sandwichs et puis on lui montre le truc. Et il reste pendant 3 jours et on revoit les mêmes œuvres pas mal. Dites-donc, je voulais quand même faire une petite parenthèse, si ça ne vous dérange pas. C'est qu'on a parlé des œuvres et on regardait d'abord l'œuvre, etc. Mais ce qui se passe, c'est que tous les artistes, les jeunes qu'on a acquis, et on les suit, on suit leur carrière. Et en même temps, par exemple, lundi, il y a une dizaine d'artistes qui viennent à la maison, tous des jeunes. Les jeunes, ils viennent à la maison, on leur donne un dîner. Oui, on a 20 personnes, on a les artistes, on a des gens de musée, tout ça, et on fait une bouffe, un truc, et ils sont vachement contents, et ils passent un bon moment ensemble, et nous aussi avec eux. Et on les suit beaucoup et on les voit souvent.
Alors justement, on vient de parler de vos relations avec les institutions et vous venez de parler aussi des relations avec les artistes. Et est-ce que vous avez le sentiment que par vos collections respectives, vous avez permis d'attirer l'attention sur certains artistes? Est-ce que vous pensez que vous avez peut-être même donné l'occasion de voir les prix de ces artistes augmenter? Est-ce qu'il y a une relation avec les galeries aussi qui est importante?
Non, la seule relation avec les institutions, et c'est vrai que j'ai présenté pas mal d'artistes, c'est avec le FRAC. J'étais au FRAC PACA pendant au moins 8 ans. Enfin, j'étais dans le comité d'acquisition du FRAC, et en fait, c'est moi qui m'occupais, c'est moi qui présentais les vidéos. Les autres, ils faisaient la peinture, photo, etc. Et j'ai été aussi à la commission images et mouvements du FNAC. Et donc, finalement, chaque fois, c'est une occasion pour présenter les artistes que j'aime bien. Et l'impact sur les prix, il faut quand même pas exagérer, ça n'a pas, enfin c'est pas dans cette idée là quand on présente un jeune artiste, c'est pas dans cette idée là que ça va avoir un impact sur les prix, hein. Je crois que là il faut peut-être pas exagérer.
Écoutez, en tout cas, vous vous appelez pas Pinault ni Bernard Arnault, donc moi non plus, donc mon impact sur les artistes, pour être bref, c'est à vous maintenant. Lors de cette exposition, vous avez des artistes, certains que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. Eh bien, c'est à vous maintenant de regarder les jeunes artistes, de les aider et de leur proposer d'autres expositions. C'est tout ce que mon rêve, c'est que grâce à cette exposition-là, certains de ces jeunes artistes soient contactés par certains d'entre vous.
Ça, là aussi, c'est un peu particulier parce que ces artistes sont tellement dans la marge que le lien est très, très, très complexe. Maintenant, il est évident que dès qu'on fait une exposition un peu visible, ça influe sur d'autres collectionneurs, des marchands, ouais, qui disent « Ah tiens, j'ai vu ça, machin », qui vont essayer d'obtenir des œuvres du même artiste. Donc, on participe au système. Moi, quand j'ai commencé... C'est horrible de dire ça, mais c'est vrai, le marché n'existait pas. On était peut-être une dizaine de collectionneurs à tout casser. Et voilà, et puis les choses se sont faites. Donc on participe à faire monter les prix, enfin des choses qu'on peut tous. Mais on ne peut rien y faire. Hein. Puis quand deux personnes aiment quelque chose, forcément, il y a un phénomène qui. Enfin, je pense qu'il faut retenir quand même de ce premier. Colloque, c'est que nous sommes des victimes. Et je vous demande vraiment de nous soutenir et de mettre beaucoup de compassion envers nous. S'il vous plaît. Voilà. Merci. J'ai passé le mot de la fin, mais en tout cas, il faut que vous en êtes conscient.
Ce sera le mot de la fin, en effet, de cette première conférence. Merci. Alors, je vais vous proposer une courte pause de 10 minutes. Elle est un petit peu réduite, mais voilà, on a plein de choses à échanger encore. Donc, je vous propose de réduire la pause et d'être 10 minutes dehors. Un café vous attend. Voilà, à tout de suite pour la suite. Merci.